Bonjour à toutes et à tous. Pour moi aussi, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je connais aussi la vie depuis longtemps. À chaque fois, c'est une joie de venir ici et de savoir que la vie, Michel et toute l'église ici est une église qui a vraiment à cœur l'église persécutée. Je suis très content d'être avec vous. En effet, on avait prévu de faire cette réunion ce dimanche il y a un mois. Après le dimanche de l'église persécutée, puis on a dû remettre un mois plus tard, donc juste avant Noël. Mais Noël, c'est aussi un moment où on pense à la souffrance parce que Jésus est né pour, pourquoi? Pour un jour aller à la croix pour nous. Et donc, le sujet de ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est le sujet que nous avions pris pour le dimanche de l'église persécutée. Et le thème, c'était aimer nos ennemis. Je pense que vous allez pouvoir voir sur l'écran là quelques versets qui sortent de Luc 6, verset 35 pour commencer. Où Jésus dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans espérer, et votre récompense sera grande. Puis dans Matthieu 5, verset 44, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et prier pour ceux qui vous maltraitent. En 1999, et je me souviens de cette histoire parce que ça nous a vraiment marqué, nous avons appris une histoire tragique qui s'est passée en Inde. Il y avait une famille missionnaire des Australiens qui vivait en Inde. Le nom du mari était Graham Staines. Et Graham devait partir, quitter sa maison pour aller animer un camp, une colonie de vacances. Il a emmené avec lui ses deux petits-fils, Philippe, qui avait 10 ans, et Timothée, qui avait 8 ans. Et donc, il laisse sa femme et sa fille derrière dans la maison, à la maison. Les trois hommes, le père et les deux garçons sont partis. Et sur la route, ils devaient s'arrêter dans la grande voiture qu'ils avaient, une 4x4, pour passer la nuit, pour dormir dans la voiture, avant d'arriver à la colonie de vacances. Et pendant qu'ils étaient arrêtés sur la route, des hindouistes extrémistes sont venus, ils savaient que c'était des missionnaires, et ils avaient mis le feu à la voiture. Et n'ont empêché que le père et deux enfants puissent sortir. Et bien entendu, Graham et ses deux fils sont morts, tués, brûlés vifs dans la voiture. Et vous pouvez imaginer sa femme et sa fille qui ont appris cette nouvelle. Gladys, sa femme, d'abord, mais n'arrivait pas à rester là-bas. Elle a dit, j'ai un tel amour pour ce pays, j'ai envie de retourner. Et donc, elle est revenue en Inde. Le Hindustan Times, un grand journal de l'Inde, appelait Madame Staines l'incarnation de l'amour chrétien. L'amour chrétien. Elle a dit ceci, Gladys, Dieu, dans sa souveraineté, m'a enlevé ma famille. Peut-être que les personnes qui ont commis l'acte seront maintenant touchées par le mot de mon ami qu'il a partagé. Elles ne feront jamais plus cela à personne d'autre. Et quelqu'un a dit que l'attitude de Gladys, l'amour et le pardon qu'elle a montré envers ceux qui avaient assassiné son mari et ses enfants, ça valait 1000 ans d'action missionnaire en Inde. Quel était l'impact de son amour et de son pardon pour ses ennemis? Aimez vos ennemis. N'est-ce pas la phrase, le propos le plus radical que Jésus a dit? Que tout ce que Jésus a dit sur la terre, la chose la plus radicale, quand il a dit aimez vos ennemis. Il prononce cette phrase pendant les deux sermons, le sermon sur la montagne et le sermon sur la plaine. Dans les sermons où Jésus veut décrire ce que ça veut dire pour être disciple dans le règne de Dieu. Et dans cette description de ce que ça veut dire être chrétien, il y a cette phrase choc. Aimez vos ennemis. C'est une phrase radicale qui dépasse tout ce qu'on pouvait concevoir avec le rapport de ceux qui sont autour de nous. Vous savez, l'humanité, pendant toute l'histoire, a essayé d'établir des règles pour vivre en commun. Et d'essayer de limiter, de contrôler la façon dont on vit et surtout avec les gens qui nous font du mal. Il y avait ce qu'on appelait la loi des talions. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'était la réciprocité du mal. C'est-à-dire, si on vous fait du mal, le commandement, la règle, c'est que vous faites, vous pouvez faire autant de mal à la personne qui vous a fait du mal, mais pas plus. On vous a cassé une dent, vous pouvez lui casser une dent. Il vous a cassé votre voiture, vous pouvez lui casser sa voiture. C'était la règle, la loi du talion. Évidemment, il y avait une valeur, parce que c'était pour empêcher les vendettas. La haine qui arrive sans arrêt, c'était pour établir une justice. On vous fait du mal, vous pouvez faire autant de mal, mais pas plus. C'était très précieux. Et en fait, dans l'Ancien Testament, on en parle. Mais déjà, Jésus disait quelque chose d'extraordinaire. Il lui a dit, on vous frappe sur la joue droite. Ce n'est pas que vous avez le droit de frapper la personne en face sur la joue droite, mais vous présentez l'autre joue. D'abord, il y avait cette règle, ce commandement, la loi du talion, c'était ne faites pas plus de mal que l'on vous a fait. La réciprocité du mal. Mais le Nouveau Testament parle d'autre chose. Le Nouveau Testament parle de la réciprocité du bien. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Et en fait, toute la moralité moderne, la moralité de notre monde, est basée sur ce qu'on appelle la règle d'or. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites la même chose pour les autres. Tous les philosophes modernes, Emmanuel Kant, et les Grecs anciens, les Épicuriens, avaient pris cette règle, la règle d'or. Ce qu'on vous fait, ce que vous voulez que vous fassiez, ça vous pouvez faire aux autres. Et tout le monde vivra en harmonie. Jésus aussi disait, tu aimeras ton prochain contre ta femme. Mais avant de dire ça, il a annoncé une autre chose. Il a dit d'abord, vous aimez Dieu avec tout votre cœur, votre âme, votre intelligence et votre force. Vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui qui essaie de pratiquer la règle d'or. Aimez votre prochain comme vous-même. Si on oublie la première action, qui est d'abord votre Dieu. Et c'est pour ça que nous avons une société avec nous qui va dans une dérive terrible. Aimez ce qui vous aime. Faites du bien à ceux qui vous font du bien. Faites la même chose que vous aimeriez que les gens fassent pour vous. Ça, c'est une chose qui est acceptée dans le monde. Mais Jésus, dans le sermon sur la montagne, a dit quelque chose encore plus. Une chose qui était tellement radicale qu'on ne pouvait pas comprendre. Il a dit, aimez vos ennemis. C'est une chose inouïe, incompréhensible, une chose extrême, une chose qui vous pourrait peut-être en faiblesse. Comment est-ce que vous pouvez aimer ceux qui vous font du mal? Ce n'est pas simplement ne pas répondre par le mal ou ne pas chercher la revanche. Ce n'est pas par vous, c'est les ennemis. Aimer ceux qui vous haïssent, vous faites le mal. Et on ne peut comprendre ce que l'on vient de faire sans aller à la croix. C'est une moralité qui, à première vue, semble immorale. Et je pense, avant ce moment d'avant où on pense à la naissance de Jésus, c'est un sujet qui nous fait toucher. Parce que le fait que Dieu a donné son Fils était l'amour de Dieu. C'est un amour d'abord, et l'amour agapé, ou agape. C'est cet amour qui est décrit dans la Bible, qui se trouve par ailleurs,
On a appelé ce commandement de aimer vos ennemis l'enseignement le plus puissant de l'Écriture sur ce que ça signifie aimer. L'amour agapé ne vient pas de nos sentiments. Il n'est pas aligné sur nos inclinations naturelles. Il n'est pas dirigé par ce qui nous a énormément de faire. C'est un acte volontaire pour faire le bien, même quand c'est difficile. C'est l'amour qui donne au lieu de prendre, qui se fait petit au lieu d'occuper toute la place, qui fait le bien à l'autre plutôt que le soin. Est-ce que vous avez entendu parler de Capitaine Boone? Capitaine Boone était une femme, une jeune femme hollandaise, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle et sa sœur et sa famille abritaient les Juifs à la maison pour les protéger contre les nazis. Et Corinne a été arrêtée avec sa sœur, Betsy, mise dans la prison de concentration depuis qu'une vague. Sa sœur est morte durant ce temps. Et Corinne, Daniel a épargné, elle est sortie de ce camp vivante. Et après, elle a voyagé partout dans le monde pour donner son témoignage. Et un jour, elle se trouve en Allemagne. Elle était en Munich. Elle avait bien donné son témoignage. Les gens venaient, comme souvent on le fait, pour lui serrer la main, lui remercier. Elle se retrouvait face à face avec l'un des gardiens de la prison du camp de concentration. Un homme qui a veillé sur elle pendant qu'elle était torturée et maltraitée. Et cet homme vient la voir et lui dit: je suis reconnaissant pour ton message pour l'homme. Et de penser que, comme tu l'as dit, Christ a lavé même le péché de moi. Comme il a dit, elle était comme paralysée devant lui. Elle voyait devant elle la main de cet officier nazi devant elle qui voulait lui faire la main. Elle priait: Seigneur Jésus, je ne peux pas lui pardonner. Donne-moi ton pardon. En chuchotant ces mots, elle sentit en train de prendre sa main pour saisir la sienne. Et puis elle a dit: la chose la plus incroyable s'est produite. De mon épaule, le long de mon bras, à travers ma main, un courant semblait passer de moi à lui, tandis que de mon cœur jaillissait un amour pour cet étranger, qui m'a même submergé. C'était l'acte de faire de cette femme de pardonner à cet homme qui a généré l'amour de Dieu. C'est l'amour agape qui nous demande de faire un effort, un acte, pour pouvoir pardonner à nos ennemis. Pourquoi cet amour? Parce que Dieu ne demande pas plus de faire la même chose qu'il a fait envers nous, chacun d'entre nous. Dieu ne demande pas de faire quelque chose qu'il ne fait pas lui-même. Ne demande pas que nous ici, nous étions des ennemis de Dieu. Ceux qui le rejetaient, ceux qui l'ignoraient, ceux qui faisaient fi de son amour pour nous, jusqu'à ce qu'il nous serre la main. C'est quoi la conversion? C'est Dieu qui se tend la main vers nous, qui prend notre main. Et l'amour de Dieu nous touche. Et Dieu dit que quand vous aimez vos ennemis, vous serez fils du Très-Haut. Soyez magnanimes comme votre Père est magnanime. Vous serez alors fils de votre Père qui est dans la cieux, car il fait laver, il fait lever son soleil sur le mauvais et sur les injustes. Soyez parfait quand votre Père est parfait. Aimez vos ennemis n'est que possible à travers la croix. Jésus nous a aimés jusqu'à aller à la croix pour nous. Lui, innocent, il a pris sur lui-même notre culpabilité. Il a aimé ses ennemis. Vous savez, j'ai entendu de temps en temps les gens qui disent: ah, est-ce qu'il faut aimer ceux qui vous ont fait du mal? Est-ce qu'il faut leur pardonner? Non, il ne faut pas pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Il faut attendre qu'ils viennent demander pardon. Parce que si vous pardonnez à la personne qui vous fait du mal avant qu'il vienne vous demander pardon, alors vous savez Dieu, pour être pardonné, il faut demander pardon. Donc, si vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal avant qu'ils vous demandent pardon, vous vous mettez au-dessus de Dieu. Vous entendez ça? Mais quel mensonge! Seulement Dieu est parfait. Seulement Dieu, le seul dans l'existence qui a le droit de ne pas pardonner. Parce que lui n'a jamais commis de péché. Mais mes amis, moi, je suis pas mieux que le pire des pécheurs. Cette semaine, quelque chose s'est passé à Strasbourg, une chose terrible. Comment est-ce que notre banque a été isolée de cet homme qui a tué, qui a mis des corps de gens? Je me souviens de quelqu'un qui était un grand homme de Dieu, célèbre. Une femme lui est venue dire: Madame, j'aimerais vous dire, monsieur, cette femme est venue, monsieur, je vous dis si bien mal, parce que vous êtes un grand homme de Dieu. Il lui a dit: Madame, si vous connaissez mon cœur, vous me cachez dans le visage. On est tous passés. Il n'y a que Dieu qui est passé. Mais aimer vos ennemis, c'est la meilleure protection pour nous. Staline Monnayer est directeur d'une organisation qui est proche de Porte de Vert, une organisation qui s'appelle Moussalaha. Moussalaha, c'est une mission qui, dont le but est de réconcilier chrétiens, juifs et palestiniens. C'est un endroit du monde où énormément de mal a été fait entre ces deux populations. Très, très difficile de pardonner à son voisin. Et le but de Moussalaha, c'est de réconcilier les chrétiens qui se trouvent des députés. Il a dit: vous savez, l'amertume, c'est quoi? L'amertume, c'est remplir une coupe avec du poison que vous avez envie de donner à votre ennemi. Et vous le donnez en coupe à votre ennemi. Vous pêchez la coupe pour vous. La nature, vous êtes du mal à vous. Le manque de pardon, c'est vous qui souffrez. C'est pour votre ennemi. La Bible dit plutôt le contraire. De ramasser des pierres sur la tête de votre ennemi par des actes de générosité et d'amour. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. L'idée, c'est que on voit tellement l'image que la personne va rougir de honte, tellement vous allez faire du bien à la personne qui vous fait du mal. Comment donc pratiquement? Et là, j'aimerais venir à l'église persécutée. Parce que c'est les chrétiens persécutés qui peuvent souvent nous apprendre ce que ça veut dire d'aimer ceux qui les persécutent, ceux qui sont contre eux. Il y a 18 mois, en Égypte, un bus de chrétiens qui allait vers le monastère dans le désert a été arrêté par les terroristes. Les terroristes sont montés dans le bus et ils ont vu le long du bus. Et chaque fois qu'ils ont vu un homme, ils ont demandé à l'homme: vous êtes chrétien? Et si le monde disait oui, ils étaient tous chrétiens parce que c'était des pèlerins qui parlaient dans le monastère. Ils étaient tués. Nadia, une femme égyptienne, s'est trouvée dans ce bus. Le premier homme a été pris par un terroriste et c'est son gendre, sa mère. Ils lui ont demandé de se convertir à l'islam. Mais mon gendre a montré la croix tatouée sur son poignet. Vous savez, tous les chrétiens égyptiens, ils ont une croix sur le poignet pour montrer qu'ils sont chrétiens. Non, il a dit, je ne confesserai pas, je suis chrétien. Il a été tué. Après, quelques minutes plus tard, c'était son fils, Ali. Lui aussi, enlevé le poignet pour montrer qu'il est chrétien. Il a été tué. Elle a vu la mort de son père, de son fils et de son gendre. Le temps a passé pour Nadia. Elle a fait ce qui semble impossible. Elle dit: maintenant, je prie pour ces tueurs, pour qu'ils soient touchés par Dieu, afin qu'ils changent leur vie. Mercredi matin, chaque mercredi quand le parlementaire est venu à Strasbourg. Une petite vision de prière. Des parlementaires chrétiens qui se retrouvent. Et je y vais quand je peux pour être avec eux. Et plusieurs parlementaires, le mercredi soir, le mardi soir, ils étaient en ville parce que c'était Noël, ils fêtaient Noël à Strasbourg, ils étaient dans les restaurants. Et donc, ils étaient coincés dans le restaurant, comme vous savez, jusqu'à 3 heures du matin. Et certains ont même vu la suite, ce qui s'est passé sur les deux. Et ce matin-là, avec les parlementaires, on a prié. Et on a prié pour cet homme qui était toujours en vie à ce moment-là, que de savoir de tout son cœur, qu'il se convertisse. On a prié pour sa famille, on a prié pour l'union des victimes. Prions pour les amis, prions pour ceux qui font du mal. Je vais rendre les gens qui sont dans ta vie. Alors aujourd'hui, je vais prier pour offrir ma pleine vie. Prie pour les persécuteurs. L'Église persécutée nous apprend qu'aimer vos amis n'est pas facile. Il faut de l'aide. Les portes ouvertes partout dans le monde ont mis en place des séminaires de conseils post-traumatiques. Pour aider les femmes qui ont été violées, les hommes qui ont vu leur famille détruite ou qui ont vu leur enfant tué, pour les aider à surmonter le trauma et à prendre pardon. Agnès était une femme qui a été prise captive par des terroristes. Devant elle, elle a vu son mari tué et son fils. Elle a réussi à donner de l'argent à un des gardiens pour s'échapper. A pu se réfugier avec ses autres enfants, mais elle se sentait tout à fait abandonnée. Laisse-moi mourir, elle a dit, je ne peux plus supporter ça. Et puis, elle a pu participer à un séminaire où on aide les gens à surmonter le traumatisme. Elle a dit ceci, pendant le séminaire, j'avais l'impression de n'entendre qu'un seul mot. Pardon, pardon, pardon. Ce jour-là, j'ai dit, oui, Seigneur, tu es bon. Aide-moi à pardonner ce qu'ils avaient fait. Le jour même, je leur ai pardonné de ce qu'ils avaient fait. Porte ouverte vous donne chaque mois sur le site web, dans des emails, des nouvelles de la vie persécutée. Et un des buts de ces nouvelles qu'on vous donne, c'est que vous demandez de prier pour la vie persécutée. Et j'aimerais vous inviter ce matin, si vous ne recevez pas les nouvelles de Porte ouverte, vous n'avez pas. Vous êtes conscient de ce qui se passe dans ce pays, de vous abonner. Jean vous a mis au bout de chaque rangée une liste et vous pouvez appuyer ça dans les rangées et simplement mettre votre nom et adresse et recevoir les informations soit par email ou par notre magazine. Les chrétiens persécutés ont besoin de prier. D'abord, ils nous donnent l'exemple. Ils ont besoin d'aide. Mais aimer les autres, aussi, c'est un acte positif, comme nous avons vu avec Corinthians Room. Il faut faire quelque chose. J'ai été très touché par cette histoire qui vient de l'Égypte. Vous savez, l'Égypte, c'est un pays où il y a énormément de musulmans, une église minoritaire chrétienne, qui souvent se sent vraiment des citoyens de deuxième classe, qui est victime énormément de violence. Et chaque année, il y a le mois du Ramadan. Et dans un pays musulman, quand il y a le Ramadan, tout change, l'ambiance du pays change. Et si vous êtes chrétien, vous êtes en difficulté. Et les musulmans se retrouvent devant les mosquées après le moment de la fin du jeûne, pendant la journée, pour manger. Et les chrétiens, souvent, ils vont vers les musulmans pour offrir de quoi manger. Ils apportent la nourriture pour leurs voisins musulmans, pour que pendant cette fête islamique en Israël. Et on leur a dit, ne faites plus ça, parce que c'est dangereux. Et les chrétiens ont décidé de le faire. Et dans le sud de l'Égypte, ils ont dit, les gens, on ne veut pas qu'ils aillent à notre table, donc nous allons préparer une centaine de colis alimentaires. Nous allons dans un village musulman éloigné, on va distribuer et jurer de ne pas manger ces musulmans voisins pendant le Ramadan. Et le témoignage, c'est le témoignage d'aimer nos amis qui est tellement fort, qui est tellement unique, je dirais qu'il n'y a que des chrétiens qui peuvent montrer ça dans notre monde. J'aimerais finir avec un témoignage qui n'est pas moderne, qui date d'il y a 500 ans. Ça s'est passé pendant la période de la réforme, aux Pays-Bas. La personne concernée, c'est un certain Dirk Willems. Il est né dans une ville de Achteren, dans le Gelderland, aux Pays-Bas. Il est devenu chrétien anabaptiste. Et bien, anabaptiste était persécuté par les catholiques, et Dirk a été mis dans une prison. En fait, c'était un grand château, transformé en prison. Et en attendant son procès, et sans doute la condamnation à mort, il a réussi à s'échapper. Il a pris des draps, il a fait une espèce de corde avec des nœuds. Il est descendu depuis le château, il a réussi à tomber par terre. Et c'était l'hiver. Le lac devant lui était gelé. Et donc, c'était autour du château, il fallait traverser le lac. Et comme le lac était gelé, et Dirk avait passé des semaines en prison, il avait perdu beaucoup de poids, il pouvait courir et traverser la glace. Mais un des gardiens l'a vu. Et le gardien commençait à courir après Dirk. Et le gardien était lourd, et à un moment, la glace craque, et le gardien tombe dans l'eau glacée et commence à se marier. Et Dirk, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers l'homme qui est en train de se nettoyer. Se noyer, il retourne et il sauve l'homme. Il a été rattrapé et il a été brûlé à mort le 13 mai 1559. Mais ce témoignage d'amour pour son ennemi a marqué sa vie. Et même aujourd'hui, dans la ville de Esperen, son nom est renommé. L'amour de Christ pour son ennemi. De sauver celui qui allait l'emmener jusqu'au bûcher. Et la justice dans tout ça. Est-ce que c'est un abandon de la justice? Non. Parce qu'il y a un qui est juste, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui fera justice à la fin du temps. C'est Dieu lui-même qui a le rôle d'être celui qui est juste. Peut-être. Les gens disent, regarde cet homme qui a tué les gens, il s'est tué il y a deux jours, je pense, deux jours. Voilà, justice est faite. Non. Comme chacun d'entre nous, un jour, il ne sera pas devant Dieu. Il devrait parler à Dieu, rendre compte à Dieu pour ses actes. Dieu est le Dieu juste. Aimer vos ennemis n'est pas un abandon de la justice dans le monde, mais se rendre la justice. J'aimerais vous passer maintenant une vidéo. Le témoignage d'une femme, un témoignage très forte, qui est toute récente, d'une femme qui réalise, a vécu ce pardon dans sa propre vie. Et j'aimerais finir avec cette vidéo, ce témoignage qu'on va regarder ensemble. Et puis peut-être après, on va passer juste quelques minutes à prier pour l'Église persécutée, pour ce commandement si radical d'aimer nos ennemis. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans notre passé, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a blessé, et cette personne, vous avez du mal à pardonner cette personne. Et par la persécution, c'est juste quelqu'un qui a fait quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal un jour. Et on aimerait demander au Seigneur de nous aider à pardonner cette personne parce que Christ nous a pardonné. Demande au Seigneur de prendre cette haine. C'est pas une haine, simplement c'est un souvenir qui revient. C'est une gêne, c'est un sentiment qui n'est pas la mort de paix de votre cœur. Et demande au Seigneur de nous donner ça. En attendant sa voix, parce que c'est pas pour nous. C'est Seigneur qui a pris cette amertume, c'est lui-même, c'est la croix. du monde. Je m'invite à prier pour les femmes comme la dite, comme les différentes personnes autour du monde qui ont vécu la persécution, la mort de leur famille tuée, kidnappée, violée, maltraitée. Je pense à de nouveaux membres qui a été arrêté juste il y a un mois. Exactement le même endroit en Égypte, à 1 kilomètre de près, de nouveau, un bus de pèlerins chrétiens qui a été arrêté et mitraillé. Donc, tous ceux qui sont en prison pour leur foi en Iran, il y a une vague d'arrestations cette dernière semaine en Iran. Nous prions Seigneur pour ceux qui sont en prison aujourd'hui, que tu les aides à pardonner à ceux qui les agressent, qui les torture, ce qui les menace dans la prison. Et c'est pour les familles déchirées parce qu'un membre de famille a reçu Jésus dans son cœur et d'autres membres ne comprennent pas. Ils sentent ça comme une trahison que quelqu'un quitte la religion pour devenir chrétien. Et la famille déchirée. Nous prions pour que ces chrétiens puissent pardonner à leur père, à leur mère, à leur frère et soeur, les comprendre et les aimer en retour. Pour nous à Strasbourg, après cet attentat, pour les familles qui ont été endeuillées parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille ou bien un membre qui est blessé, nous prions Seigneur pour ton pardon, la guérison dans cette communauté. Que nous tournions pas vers la colère, la haine, mais avec l'amour pour les entours de nous. Rappelez que Jésus est venu envoyé dans le monde, dans un monde hostile, un monde qui est rejeté, parce qu'il nous a mis en premier et qu'il est mort sur la croix pour nous. Merci de garder cette pensée dans nos cœurs, ce Noël, cette reconnaissance dans nos cœurs, que nous sommes un peuple